bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadouboudadi.
Bonjour à tous.
Guillermo Gouy.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour.
Albert Algou.
Bravo.
Et Charles Ornac.
Bravo.
Qui est pas loin. Notre invité est Isabelle Huppert.
Bravo.
Ravi de vous accueillir, j'espère que tout va bien, Isabelle.
Tout va très bien.
Ravi de vous accueillir.
Ah oui, ravi.
Nous avons... Oui, on est ravis.
Ouais,
oui, on
en cette semaine de Noël.
Je vais prendre d'enthousiasme comme ça.
Nous allons parler de Souvenir, le film porté par Isabelle Huppert. Mais avant cela, je voudrais être sûr que Jean-Philippe Manœuvre, vous ayez bien compris pourquoi Isabelle Huppert est notre invitée, vous qui ne comprenez pas tout vraiment.
Yes, tu vas voir. Tout d'abord, thank you, Dani. Merci d'avoir précisé mon prénom, parce que je ne tiens pas du tout à ce qu'on me confonde avec mon cousin Philippe, le plus vieil ado de l'univers. C'est une question d'image. Maintenant, pour répondre à ta question, Nagui, je te signale que tu as répondu juste avant l'émission, quand on attendait. Quand je t'ai demandé pourquoi tu avais invité Isabelle Huppert, tu m'as dit texto, je te cite, parce que je vais pouvoir lui dire qu'elle est la grande figure féminine du cinéma français, qui met fréquemment son talent au service de films indépendants et d'auteurs exigeants. Et tu as continué ? C'est tapé, non ? Exactement ce que j'ai sorti mot pour mot il y a 2 mois à Fanny Ardant, quand elle est venue dans la bande originale. Tu vas voir, Jean-Fille, ce genre de compliment, ça marche à tous les coups. La Huppert, ça va la mettre à l'aise tout de suite. Comme la Ardant, après je pourrais enchaîner sur Souvenir, le film de Bavo de Fume dans lequel elle interprète Liliane, ma langue a fourché,
ouais, c'est ça.
Dans lequel elle interprète Liliane, ouvrière dans une usine de fabrication de pâtés et dont un jeune boxeur amoureux d'elle à la recherche de sa propre identité découvre qu'elle est une ancienne star de l'Eurovision des années 70, arrivée deuxième derrière ABBA. Alors à ce moment, Nagui, je t'ai dit stop in the name of love, t'es en train de bouffer mon pitch, c'est à moi de résumer cette histoire d'un comeback doublé d'une réflexion douce amère sur la fragilité du succès, les regrets et l'irrévocabilité du temps qui passe et qui nous fuit. Putain, ça aussi c'est tapé. À propos de comeback, je pense à 3 autres exemples incroyables qu'on ne rencontre que dans le rock'n'roll. D'abord, celle de la chanteuse Jane County. Au départ, elle s'appelait Wayne Rogers. C'était un chanteur punk new-yorkais proche d'Andy Warhol et du groupe Suicide.
Ouais, c'était un mec, ouais, c'est ça.
Ouais. Avec le groupe Wayne County and the Electric Chair, les chaises électriques, il avait enregistré ses gros tubes. Fuck Off, Toilet Love et Cream in My Jean.
Oh,
ensuite,
non.
Si, c'est les vrais titres. Ensuite, il a disparu pendant 20 ans pour réapparaître avec un corps de femme sous le nom de Jane County, Total Trans. L'autre comeback, c'est celui de David Palmer, le claviériste barbu du groupe Jethro Tull. Tu t'en souviens, jusqu'en 80 et qui a ressurgi en 2004.
Vous n'avez pas tous les faire, Jean-Philippe Manœuvre.
À 67 ans, sans barbe, mais avec des seins énormes.
On n'a pas Isabelle Huppert tous les jours, non, mais je voudrais quand même un peu lui parler.
Et le troisième exemple, je vous laisse avec lui, Isabelle, il s'agit de Nagui. Au départ, son vrai prénom, c'était Nefertiti. C'était une star de la danse du ventre dans les cabarets trans d'Alexandrie. Voilà pourquoi, question comeback, il est vraiment the best.
C'est ça, merci Jean-Philippe Manœuvre, merci Albert Algou.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Souvenir, le film signé Bavo de Furne, sort donc aujourd'hui avec Isabelle Huppert, dans le rôle, comme l'a dit le cousin de Manœuvre, dans le rôle de cette jeune...
Liliane.
Voilà, de cette femme seule, parce que c'est surtout ça qui est frappant au début du film, elle est totalement seule, seule à s'ennuyer à regarder la télé, seule à se faire des plats au micro-ondes, seule à boire pas mal d'ailleurs.
Pas mal, oui.
Il y a quelques verres, mais sans aucune amitié, sans même essuyer le moindre regard quand elle se déplace, quand elle va à sa cantoche à l'usine. C'est cette solitude-là qui est frappante au début.
Oui, c'est ça qui m'a plu aussi quand j'ai lu le scénario pour la première fois. C'est le thème de la disparition. C'est quelqu'un qui a choisi de faire un pas de côté, pour le moins radical, puisqu'elle était chanteuse, elle est devenue donc ouvrière, comme vous le disiez, et elle a choisi de disparaître, et de devenir au fond aussi inatteignable et intouchable que si elle avait atteint le firmament du succès. Et elle n'a pas tout à fait atteint dans un premier temps, parce que le film, comme vous le disiez aussi, et réflexion sur aussi bien la difficulté à affronter l'échec que à affronter le succès.
C'est ça. Il y a aussi le regard des autres quand on est sous les les projecteurs, les caméras, les paillettes de l'Eurovision. C'est-à-dire, en plus, il n'y a pas d'émission qui ait le plus grand nombre, à part peut-être le Super Bowl aux États-Unis.
Ta-ta-ta.
C'est ça, oui. Le plus grand nombre de téléspectateurs, ce sont des millions de gens qui l'ont vu, avec cette image de, un peu de poulie d'or, entre guillemets. C'est voilà. Celle qui a la loseuse, quoi. Évidemment,
oui,
qu'est-ce que je peux faire contre
Abba? Deuxième. Voilà.
Oui.
Deuxième, donc, c'est bien, jamais... mais c'est aussi le syndrome du...
Non, puis personne ne se souvient du deuxième, oui, ça, de l'Eurovision. Jamais. Personne, à part, si, en France...
Ils s'en souviennent quand même un petit peu, parce que le père du jeune homme...
Voilà, est fan.
Est fan, et donc, non, c'est le jeune homme d'ailleurs lui-même dans un premier temps, ouais, qu'elle la reconnaît. Donc voilà. Mais peut-être à ses propres yeux à elle, elle a pas vraiment atteint le succès tel qu'elle avait complètement rêvé.
Et mais
en même temps, les raisons de sa disparition restent un peu,
ouais,
un peu mystérieuses.
On ne sait pas si c'est aussi une histoire d'amour qui a mal tourné avec son producteur,
voilà,
Tony Jones.
Ça peut être un petit peu tout, voilà, ça, une blessure, une faille. Et voilà, elle a choisi de disparaître. Et les gens qui disparaissent, c'est toujours intriguant. Moi, ça m'intrigue.
Et sa seule dimension artistique ou créative, finalement, dans sa vie d'ouvrière, c'est de s'occuper de la décoration de ses plats. C'est son expression à elle.
C'est vrai. Oui, oui, elle a gardé quelque chose de cette fibre créatrice, quand, ouais, même, dans cette routine un peu morne et répétitive de la vie en usine. Oui, elle a à cœur. Alors ça, c'est aussi le parti pris de Babo Dufurne, le metteur en scène, qui y a une esthétique, l'esthétique, du mélo très assumée, très revendiquée,
qui est très touchante.
Son film, avec le choix des décors, des costumes, voilà, il y a une poésie qui court tout au long du film, que qu'on soit à l'usine ou un peu plus tard.
C'est vrai, j'étais très sensible à ces décors dans l'usine, comme si c'était ce décor que je voyais en focalisation interne à travers le regard de ce personnage, que ça soit dans les blouses, dans le carrelage de cette usine, dans la façon dont les postes de travail sont installés. Et j'ai trouvé assez fantastique comment le réalisateur parvient à nous faire rire ou sourire juste avec un plan et une musique. Tout d'un coup, on tombe dans quelque chose d'un petit peu mélo, nostalgique.
Oui, et puis on est un peu dans les temps modernes.
Souriant.
On est un peu dans les temps modernes avec ce côté travail à la chaîne systématiquement. On apporte les pâtés, vous les décorez. Tout est transversal.
Voilà,
tout glisse naturellement. Et d'ailleurs, il y a un enchaînement après sur le plateau repas de la cantine, et y compris sur le décor très très rangé, méticuleusement rangé de la maison. Mmh. Il y a aussi une histoire d'amour ou d'affection, en tout cas avec Jean, le personnage qui est incarné par Kevin Azaïs dans ce film, ce jeune ouvrier qui croit reconnaître Laura, puisque c'est le pseudonyme de la chanteuse, qui finit par se dire mais oui, bon sang, c'est bien sûr, c'est elle. Oui, il aime bien l'inspecteur Bois. et qui se dit d'une expression de 1927, comme ça, je me dis, tiens, je vais la ressortir aujourd'hui, pourquoi pas. Et puis, ils vont tomber amoureux, c'est-à-dire qu'elle va se prendre au jeu du regard. Alors, c'est pas une cougar à la base, elle a pas spécialement envie de croquer du jeune, mais c'est quand même ce qui va se passer. Il n'y a aucune limite dans leur amour, en tout cas, elle s'interdit rien à ce moment-là.
Oui, enfin, leur amour ne s'accomplit pas aussi d'une manière aussi naturelle et évidente. Il connaît aussi des obstacles plus subjectifs qu'objectifs. Objectifs un peu de la part de la famille du jeune homme, mais subjectifs de sa part à elle, qui, au départ, ne croit pas vraiment à cette histoire. Alors lui-même, d'ailleurs, renonce à quelque chose, parce qu'en la rencontrant, bon, lui, il voulait être boxeur, mais au fond, à un moment donné, il réalise qu'il sera jamais peut-être un grand boxeur. Donc ils mettent ensemble aussi ces mouvements de va-et-vient, ce renoncement, cette acceptation de quelque chose que la vie leur
oui,
offre.
Mais
Elle est regardée, et tout d'un coup, le vrai premier regard qui est posé sur elle dans ce film, c'est ce jeune homme.
Et c'est là où elle change de comportement, c'est-à-dire qu'elle est totalement effacée, elle ne dirait pas un mot. Elle croise tous les ouvriers qui rentrent et qui sortent de l'usine sans rien dire. Dans le bus, personne ne lui parle, elle ne parle à personne. Et à partir du moment où ce jeune homme le rebraque un projecteur sur elle, elle renaît.
Oui, elle renaît non sans difficulté, parce qu'il y a une réticence et à accepter cette histoire d'amour et aussi à revenir dans la lumière. C'est lui qui va finir par la convaincre d'y arriver, mais jusqu'à la fin il y a un suspense sur les deux choses. D'ailleurs, on ne sait pas si cette histoire d'amour va marcher, et on ne sait pas si elle va finalement, d'ailleurs on ne saura jamais si enfin, on va pas dévoiler la fin du film, mais il y a quelque chose, il y a un obstacle quand même jusqu'à la fin. Non, c'est pas bien. Non, non, faut aller le voir. Faut aller le voir.
Voilà. De jouer, évidemment, vous êtes, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Philippe Manœuvre, une star incontournable du théâtre, du cinéma. Vous êtes iconesque, Isabelle, vous, même si vous le savez pas, même si vous n'avez pas envie d'entendre, vous l'êtes. Non, vous vous rendez compte de ce que vous apportez aussi au film, c'est-à-dire vous jouez avec cette image et même, j'ai envie de dire, votre propre image, c'est-à-dire de jouer la loose et l'absence de reconnaissance, c'est un comble, c'est un contre-pied.
Oui, enfin moi j'ai pas du tout conscience de ça quand je décide de faire un film. Peut-être que ça c'est une perception tout à fait extérieure des gens qui projettent quelque chose sur une actrice et qui évidemment, quel que soit le film qu'on fait, voit forcément cette actrice et ce personnage à la lumière de ce qu'ils savent sur cette personne, sur moi en l'occurrence. Voilà, moi ça n'intervient pas du tout dans mon choix de faire un film et dans mon choix de faire quasiment un premier film en plus, parce que c'est, alors Bavo Dufour, il a fait un autre film qui s'appelait Sur le chemin des dunes, qui était un très bon film. Voilà, il est venu à moi avec ce scénario qui était particulièrement bien écrit, les dialogues étaient très très bien, et puis très vite aussi il m'a raconté que les Pink Martini allaient participer au film. Voilà, c'est un groupe, je pense que tout le monde connaît ici, que moi j'aimais beaucoup. Ça c'était déjà un garant de qualité, d'originalité. Après il m'a tout de suite dit que voilà, les chansons allaient être un petit peu chorégraphiées, ça donne quelque chose d'assez singulier à la manière dont je chante les chansons. C'est pas vrai. Danser, mais il y a une mise en forme, une gestuelle.
Une musique assez kitsch, qui est très jolie d'ailleurs. Et ce qui est assez émouvant.
Moi je dis que le disque devrait sortir, n'empêche. Non, parce qu'il est vraiment entraînant.
Les chansons sont formidables, oui, surtout la dernière, mais on voit à quel point j'entraîne tout le monde.
Je dis oui. Je dis non, moi. C'est un biais. C'est un lapsus révélateur.
Oui,
moi je dis souvent non.
C'est ton problème, ça,
psychanalyste. En revanche, la thématique du film, cette notion de disparition qui est consentie ou qui est subie, j'imagine qu'en tant qu'artiste, ça doit vous parler. La crainte d'être oublié, de ne plus être vu, d'être...
Non, c'est pas ça tellement qui a fait écho en moi, comme on dit, cette crainte là, mais c'est l'idée justement de simplement de changer de vie. Ça, je crois que ça, c'est là où le film peut devenir universel. Ça s'adresse pas uniquement aux gens qui ont fait le choix d'avoir une expression publique ou d'être tout d'un coup célèbre et de... Alors c'est plus évidemment plus délicat, parlant quand il s'agit de quelqu'un de célèbre qui est reparti dans l'anonymat, mais c'est l'idée, voilà, que à un moment donné toute vie peut bifurquer complètement. Vous savez, parfois, quelquefois dans les, je sais pas pourquoi je pense à ça, parce que ça c'est pas quelque chose de réel, mais on voit des photos dans des gares ou dans des aéroports de gens qui ont disparu. Alors on se dit toujours, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour quelqu'un disparaît complètement,
Vous parlez des avis de recherche ou
des avis de recherche
ou des unes de
non,
stars
des
années 80.
D'accord. Des avis de recherche. Il y a des gens qui disparaissent. Ouais. Ben, au fond, elle, voilà, c'est ce qu'elle a fait. Elle a disparu. Et c'est toujours.
Elle est même transparente, ouais. On passe ou on ne la voit pas.
Aussi.
On ne la voit plus. Alors qu'elle est bien là au milieu, elle fait son travail à la chaîne, elle change le pâté.
Ça, c'est aussi la brutalité, de la. Enfin, même si, comme vous dites, je mets joliment des feuilles de quoi?
Des feuilles de laurier. Mais elles sont un peu différentes.
Il y a aussi, l'inhumanité aussi. Enfin, vous citez les temps modernes, oui. Il y a ça aussi. Donc, il y a chacun. Il n'y a plus d'existence, il n'y a plus d'individualité.
Ça s'appelle Souvenir et ça sort aujourd'hui avec Isabelle Huppert qui est notre invitée. Et évidemment, vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous annonçait la venue d'Isabelle dans la bande originale.
Oui, immédiatement, je me suis réjouie parce que c'est peu dire que j'aime la comédienne Isabelle Huppert que vous êtes. Votre filmographie est assez impressionnante par sa qualité, évidemment. Et récemment, parce qu'on va parcourir quelques années de votre vie dans l'émission, j'ai pensé à un film récent, c'est L'Avenir de Mia Hansen Love. Un film magnifique, moi qui m'a bouleversée, avec lequel, vous savez, il y a des films comme ça où on vit plusieurs jours avec et d'autres qui s'effacent instantanément une fois qu'on a passé le seuil du cinéma. Et là, vous incarnez une prof de philo dont la vie s'écroule d'une certaine façon, au commencement en tout cas.
Lorsque je l'ai rencontrée, votre mère distribuait des tracts pour le PC.
Ok, j'ai été communiste pendant 3 ans. T'as pas de honte.
Ça vient. La classe prépa, normal, sup, tout ça, c'est grâce à toi. Je vais te le dire.
C'est son chouchou, papa, tu sais.
Ah, le fils qu'elle aurait aimé avoir. Celui qui est tout le contraire de moi, tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel.
Voilà, L'Avenir de Mia Hansen-Love, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Je crois qu'il est sorti en DVD en plus, donc c'est l'occasion.
Et
déjà,
ça
oui.
Va vite,
oui. Et à chaque fois, je suis assez saisie par votre capacité à incarner des individus lambda. Que ce soit dans Souvenir, où vous êtes là, cette ouvrière dans cette usine à décorer ses pâtés en croûte, ou dans L'Avenir, où vous incarnez cette prof de philo qui est totalement investie dans la transmission, qui découvre aussi que son amour installé depuis de longues années n'est plus. Vous avez cette capacité incroyable à être à chaque fois quelqu'un d'autre. Et je me dis à chaque fois, je vois un film avec vous, je me dis je vais voir Isabelle Huppert, et en fait je la vois pas.
Ben oui, enfin en même temps, c'est ce que j'espère tous les acteurs font et
non.
Savent faire, non ?
Non, parce que je trouve que vous avez quand même une grande palette devant vous, une grande variété, que ce soit dans ces personnages un peu traditionnels ou dans des personnages un tout petit peu plus hauts en couleur. Se faire oublier, disparaître aussi, ça revient un peu au film.
Oui, mais je pense qu'on disparaît d'autant mieux aussi qu'on y met d'autant plus de soi-même aussi, peut-être, paradoxalement en fait, parce que c'est vrai que en principe pour disparaître... Alors il faudrait, en principe, supposément, renoncer complètement à soi. Au contraire, moi j'ai l'impression de ne pas du tout renoncer à moi-même. Au contraire, j'ai l'impression d'être entièrement moi-même. J'ai presque l'impression que les derniers films que j'ai faits, que ce soit Elle, le film de Verhoeven ou L'Avenir, ou même Souvenir, d'une certaine manière, à un degré peut-être un petit peu plus éloigné, sont quasiment des documentaires sur moi. C'est-à-dire que j'ai absolument pas l'impression de jouer, mais alors pas une minute. Donc je pense que ce que vous en ressentez, c'est aussi voilà l'affaire de la mise en scène.
C'est ce qui fait le naturel et c'est pas surjoué quoi. Ça passe d'une manière.
Bah avec moi ça
simple.
Risque pas. Hein. Mais non. Alors après ça c'est le cinéma aussi qui permet l'understatement si je puis me permettre ce petit angle. Anglicisme permanent, justement la caméra, ça permet d'aller, c'est comme un microscope, ça permet de montrer ce qu'on sent et non pas forcément ce qu'on souligne ou ce qu'on avec trop d'emphase.
Le travail avec Bavo justement sur ce film, est-ce que c'est vous qui lui proposez des je sais pas un comportement, des gestes, une forme de regard justement perdu comme ça. Est-ce que c'est lui qui vous a dirigé plus que vous ayez pu le ressentir avec d'autres?
Non, mais les metteurs en scène, ils dirigent pas.
On ne connaît pas le travail de Bavo, donc c'était pour.
Mais même celui de Bavo ou celui de Cugon, mais c'est vrai qu'on n'est pas là pour parler de celui de Bavo en particulier. Mais les metteurs en scène vous dirigent jamais d'une manière aussi ponctuelle. Ils vous dirigent par la grâce de leur mise en scène, par la manière dont les choses se mettent, s'accordent à votre rythme, et puis vous permettent, d'être soi-même et d'être le plus inventif possible.
Vous avez bien des indications du style, place la voix comme ci, comme ça, parle plus fort, parle plus lentement. Non,
Non,
pas question.
Non, mais c'est pas ma question. C'est que ça se passe pas comme ça. Non, ils indiquent pas comme ça. Après, par exemple, pour les chansons, il y avait cette, comme les chansons étaient chorégraphiées, ça faisait figure de direction, au fond. D'accord. La manière dont on a travaillé avec un chorégraphe, tout était très travaillé. Ça, j'ai beaucoup travaillé cette gestuelle des chansons. Mais pour ce qui est du rôle lui-même, non, l'acteur, il a un champ, au contraire, très, très, très large. Si justement le film, il y a une harmonie et ça fait partie de cette entente avec le metteur en scène, ça permet à l'acteur de proposer le plus possible à l'infini des choses qui viennent entièrement de lui, de soi.
Et quand je pense à vous, Isabelle Huppert, je pense pas simplement au cinéma, je pense aussi au théâtre. Et là, pour le coup, je crois que j'ai vu un peu tout ce que vous avez fait sur les 15 dernières années. Plus récemment,
ah ouais,
c'était Phèdre.
Avant, t'étais pas née, forcément.
Si, quand même, mais j'avais pas accès au théâtre de la même manière. Ouais. Je vous ai vu récemment dans Phèdre au pluriel, une mise en scène de Christophe Warlikowski. C'est une claque de vous voir sur scène, de vous voir arriver, tenir ce monologue de Gaïa, je crois, de la mère Terre, dans des postures, dans des costumes, avec une énergie assez insensée. Et quand on voit là encore la liste, vous avez collaboré avec les plus renommés, que ce soit Claude Régis, Jacques Lassalle, qui vous avait mis en scène dans un Médée assez extraordinaire, Bob Wilson, Luc Bondy, où vous étiez une petite fille, tout d'un coup dans Les Fausses Confidences, avec une fantaisie incroyable. Chéreau, disiez-vous que vous étiez un gouffre. Est-ce que c'est ça qui explique tout d'un coup votre capacité à vous métamorphoser, quel que soit le rôle? Là, j'en ai cité plusieurs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
Oui, alors le théâtre, c'est encore différent. J'ai peut-être été confrontée à des univers, mais encore plus fort avec tous les metteurs en scène que vous venez de situer, notamment, oui, des gens comme Bob Wilson. C'est leur vision aussi, c'est la force de ce qu'ils proposent qui permet à ce moment-là à l'acteur cette inventivité, cette liberté aussi. Pour moi, le théâtre, c'est surtout la possibilité ou ce que j'ai au fond exigé du théâtre, c'est d'être le plus libre possible. C'est vraiment les metteurs en scène qui m'ont laissé occuper l'espace de la scène sans contrainte, sans barrière, sans non plus la contrainte arbitraire du personnage. C'est ça qui peut être très entravant au théâtre, c'est de se dire que surtout dans le répertoire classique
ouais.
De dire on joue fait, on joue non. Moi j'ai occupé la scène voilà de la manière la plus libre possible. Alors dans l'exemple de fête, comme c'est pas la Phèdre, mais quand bien même ce serait la Phèdre de Racine, que je joue d'ailleurs un tout petit peu à la fin, je l'aborderais de la même manière, avec la même liberté, et d'ailleurs la manière dont je dis les vers de Racine à la fin indique cette liberté que je prends, et que la langue de Racine d'ailleurs permet complètement, hein. J'ai pas non plus l'impression de transgresser quelque chose.
C'est une prise de risque pour vous le théâtre, c'est un challenge, c'est
non
un
mais pour
défi.
Moi rien n'est une prise de risque, donc pas plus le théâtre que le cinéma. Après le théâtre, oui, c'est un petit peu plus, disons, ça fait un petit peu plus, ça fait un peu plus peur que le cinéma.
C'est mais
vrai
c'est ça qui est excitant.
Ah ben, c'est-à-dire que, oui, je compare toujours,
si
pour filer la métaphore, disons que le cinéma, ça serait une promenade assez calme et assez dans la campagne, et puis que le théâtre, c'est plutôt gravir une montagne très haute, mais quand on est en haut de la montagne, la vue est belle, voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un de très célèbre qui a dit ça avant moi. Donc, quoi que je dis ça, mais je me souviens plus qui c'est, mais voilà, bon.
C'est Ségolène Royal quand elle était en
non, moi je crois que c'est le général de Gaulle, je crois.
Ah, d'accord.
Ou quelque chose comme ça. Enfin, dans tous les cas, voilà, le théâtre, ça permet cet écart très très grand, oui, entre. Parce que pour arriver là-haut, ça, on passe par des moments très 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 difficiles. Hein. Le théâtre, ça, c'est très vertigineux en même temps.
Et justement, qu'est-ce qui préside à vos choix en matière de théâtre dans les pièces?
Mais moi,
et
ce qui préside à tous mes choix, que ce soit le cinéma ou le théâtre, c'est la perspective de travailler avec un metteur en scène. C'est l'idée que toute expression, quelle qu'elle soit, dans ce domaine, en tous les cas. Voilà, c'est une expression individuelle et c'est la relation que je vais avoir avec un metteur en scène. Il n'y a rien d'autre qui compte à mes yeux.
Mais sauf que quand c'est un premier film, ce qui est pratiquement le cas de Bavo de Furne, là, vous ne pouvez pas dire j'ai toujours voulu travailler avec lui. Donc
non,
c'est une,
alors là,
bah,
c'est plus oui, c'est l'intuition. Voilà, c'est ce qu'on ressent d'une personne, encore une fois, d'un scénario. Le cinéma, c'est aussi toujours un faisceau. De désir collectif, donc c'est pas non plus, on n'est pas seul à prendre une décision. Et voilà, il y a des gens qui, il y a un producteur, il y a plusieurs personnes en même temps qui ressentent cette même intuition. Et c'est vrai que je me suis pas souvent trompée dans le cas
dans les premiers films,
c'est vrai.
Ouais,
mais
c'est vrai.
Ça prouve que voilà, un individu, c'est aussi parce qu'il est, parce qu'il vous raconte, être convaincant et surtout, voilà, vous laissez imaginer ce que sera le résultat final.
Ça s'appelle Souvenir, ça sort aujourd'hui avec Isabelle Huppert qui est notre invitée. Voici l'humeur de Guillermo Guiz. Vas-y, aval mon gars. Aval. Aval.
Bonjour les amis.
Ça va?
Ça va et vous? Comme vous le savez. Merci. On est le 21 décembre et qui...
Fais gaffe, t'as encore une goutte d'eau sur le nez. C'est le problème de la cristalline, c'est qu'avec le bouchon, tu l'as mis dans le nez.
Ça y est, vous me laissez faire mon texte comme d'habitude. Bah,
excuse-moi d'aider, de
bonjour
soigner
les amis,
ton image.
Comme vous le savez, donc on est le 21 décembre et qui dit 21 décembre dit... Alors sinon, toute autre chose, c'est un honneur pour moi d'être à la même table qu'Isabelle Huppert, que sans vouloir tirer sur la corde de la flagornerie, je considère sincèrement comme une assez bonne actrice, quoi. Vraiment, très prometteuse en tout cas. Tu sais, tu la vois jouer, tu dis,
il y a quelque chose,
tu sens parfois un petit manque de justesse et tout, mais ça se corrige, quoi. Un conseil ou deux d'Ariel Dombal et ça va finir par payer. Et moi, j'ai le flair pour ce genre de choses. J'avais prévu succès pour cette bande, par exemple. Vous savez que dans le train où j'ai écrit ce texte, et je vous promets que c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit, bonne chance mon gars avec Isabelle Huppert. Et j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, si ça l'amuse pas, je peux te dire qu'elle va pas t'aider, quoi. Et en revanche, si elle trouve ça drôle, elle va sûrement rire. Et j'ai dit, tu la connais Isabelle Huppert? Il m'a dit, Isabelle Huppert, non, jamais de ma vie. Mais j'imagine que c'est comme ça que les gens réagissent dans l'émission. Et il dit, enfin oui, bon, là j'ai du boulot, quoi. C'est-à-dire que si c'est pour me dire qu'elle va répondre en français quand on lui parle en français, fallait pas te donner la peine, quoi. J'ai travaillé à faire. Enfin, comme dirait Michel Audiard, c'est quand même pénible, cette espèce de besoin qu'ont les gens de faire des phrases. Parce que, voilà, C'est que de mon point de vue, avoir l'opportunité d'être à la même table que la plus grande comédienne française, c'est complètement surréaliste. Mm-hmm. Vraiment, tu m'aurais dit il y a 4 ans, tu vas rencontrer Isabelle Huppert chez Nagui. Je t'aurais dit, ça t'embête pas si je la rencontre plutôt chez Jean-Luc Reichmann. Oui, c'était ma grosse période 12 coups de midi.
Merci.
J'en suis revenu, j'assure tout le monde. J'ai morflé, mais j'en suis revenu. Mais à ce même près, je vous aurais pas cru, clairement. C'est pas normal pour un type comme moi d'être assis avec vous, Isabelle, ni avec des gens pour qui j'ai le plus grand respect, comme Nagui, Leïla ou Albert Algou. Je veux dire, vraiment, c'est pas normal. Ouais, tu m'aurais dit il y a 4 ans, un jour, tu seras à la même table que Daniel Morin. Je te dis pas un mot de plus, malheureux. Pas un mot de plus. Je ne veux rien savoir, ni quand je rencontrerai Daniel Morin, ni quand je ferai mon premier score but. Pas un mot de plus. Voilà. Mais bon, authentiquement, c'est fou. Si je vous disais, Isabelle, où j'étais il y a 4 ans, je crois que si je vous le disais, vous me direz, ah ouais, super, d'accord. Est-ce qu'on peut m'apporter un peu d'eau? Et moi, je serais triste d'avoir loupé le coche avec mon anecdote, parce que j'avais fondé pas mal d'espoir sur cette année. Mais enfin voilà, je vais quand même vous la dire, en tout cas aux autres, et voilà, ça intéressera sûrement cette fameuse catégorie d'auditeurs à qui je partage des souvenirs d'enfance et mon nom de famille. Il y a 4 ans, jour pour jour, j'ouvrais une boîte de nuit à Bruxelles, figurez-vous.
Mais non.
Je croyais que c'est vrai en plus, c'est ça qui est triste.
Une boîte qui, sans vouloir me vanter, a plutôt bien marché dans l'univers de la faillite. Après 3 mois, c'était plié. Vraiment, j'avais littéralement plus rien. Plus de logement, plus d'argent, plus de voiture, plus de femmes, plus de boulot, plus de discman. Ce qui pour le coup n'était pas du tout lié à la faillite, c'était lié à l'émergence du format MP3. Et voilà, le CD sous-temps, ça sautait tout le temps dans les Discman, en fait, c'était. Voilà, on n'est pas là pour refaire toute l'histoire
de
l'histoire des appareils électroniques.
Non,
Si tu me lances là-dessus,
Non, je te lance pas là-dessus.
Ok. Voilà, mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'étais sur la paille sans perspective, je dormais dans le salon de mes potes à l'époque. C'est vrai, et c'est là que je me suis dit, Patrick. Parce que Guillermo, c'est le nom que je me suis créé dans l'intervalle, en hommage à Francis Huster. Mais je me suis dit, Patrick, réinvente-toi en tant qu'humain. Tu as toujours voulu écrire des textes. C'est le moment. Personne ne le fera à ta place. Va chercher ton rêve, Patrick. Allez, va chercher. C'est bien, Patrick. Bon chien. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, la vie est un supermarché dans lequel tu entres pour acheter une gousse d'ail et tu ressors avec des piles rechargeables. C'est vrai, il peut t'arriver 1007 trucs. L'important, c'est de se laisser la chance d'aller au supermarché. Et j'ai bien compris que la morale de mon histoire était pourrie et que vous êtes sur le point d'aller sur le terrain de la moquerie. Mais je vous rappelle, à cette heure-ci, il y a 4 ans, j'ouvrais le Macumba à Bruxelles. Voilà, ça laisse des traces. Allez, bonne émission.
Merci, Guillaume.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Guillaume Guise, notre invitée est Isabelle Huppert. Elle est à l'affiche Souvenir qui sort aujourd'hui. On a illustré, on vous a demandé d'ailleurs, on s'est basé sur vos choix musicaux et ce que vous aimez écouter pour voir l'ambiance entre votre travail et votre vie. Par exemple, lorsque vous étiez au conservatoire, vous écoutiez.
Suzanne takes you down. To her place near the river, you can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know.
C'est d'une douceur phénoménale. Il nous manque évidemment déjà.
Ça nous
Suzanne.
Plonge dans la tristesse.
Ouais. C'est une belle chanson. Il y a une voix de dingue. Son dernier album est somptueux. Ouais. La musique dans un film est extrêmement importante, encore plus dans Souvenir. Dans la vie aussi. C'est-à-dire quand vous entendez cette musique, vous revoyez travaillant au conservatoire, être accompagné par votre maman. Vous disiez que c'était une activité de plus.
La musique ?
Non, le conservatoire.
Ah, à l'époque, oui. Bah, le premier que j'ai fait, parce que moi, j'ai fait d'abord le conservatoire de Versailles, mais j'étais encore au lycée.
Je parlais de celui-là, oui.
Ah, vous parliez de celui-là. Ouais. Bah oui, parce qu'après, j'ai fait le conservatoire de Paris. Oui, bah, au début, quand on commence, c'est toujours une activité, comme on dit. Comme on fait faire aux jeunes filles, aux petites filles, voilà, ou du sport, ou du patin à glace, comme j'ai fait, par exemple, beaucoup, au début, ou de la musique. Oui, c'était une activité. Mais alors, très vite, est venue une dame qui était très importante dans le cinéma, qui s'appelait Margot Capelier, qui était une grande
directrice de casting,
qui était un personnage assez extraordinaire. Et alors, elle est venue me voir au concours de fin d'année, où j'ai obtenu un premier prix. Et voilà, elle est allée vers moi. Et c'était une rencontre très importante pour moi, parce que c'est ce genre de rencontre comme ça qui vous donne une assurance sur quelque chose et qui m'a dit, il faut continuer. Et j'avais 14 ans à l'époque, 15 ans. Donc,
Et alors, vous avez dit que vous avez fait de la musique. C'est-à-dire, vous jouiez d'instruments ? Vous jouez d'instruments ?
Moi, je jouais du piano, voilà. Bon, ça m'a un peu servi par la suite, quand j'ai travaillé un peu moi-même pour la pianiste, mais ma mère jouait très très bien du piano, et elle me faisait travailler le piano une heure par jour.
Est-ce que vous continuez de le pratiquer pour le plaisir à la maison ?
Absolument pas. Mais j'aimerais, mais j'ai pas le temps. C'est
dommage. Mais il y a quand même un piano qui trône à la maison.
Oui, mais complètement désaccordé, mauvais piano, il faut que... Voilà.
Dommage, non, parce que c'est une pièce essentielle.
Mais bien sûr.
Oui, on se réunit autour du piano, il y a quelque chose dans le partage, dans le...
Oui, oui. Mais ça reste à faire. Je peux pas tout faire. Je peux pas tourner des films, apprendre à chanter, jouer du piano. J'y arrive pas.
Il y a eu aussi une troupe amateur. C'était au Festival des Arts de Shiraz. Mmh. C'était en Iran. Mmh. Et à ce moment-là, vous écoutiez.
La Californie, j'adore. S'adore près de la mer et ne connaît pas l'été de
Californie de Julien Clerc. Et c'est une rencontre avec Bob Wilson.
Ah oui, alors j'aime beaucoup Julien Clerc. J'aime beaucoup la chanson française. Les autres aussi, mais j'ai beaucoup de plaisir à les écouter.
Vous avez eu l'occasion déjà de le dire à Julien directement?
Ah oui, bien sûr. Je suis allée le voir souvent. Oui, bien sûr. Alors oui, Bob Wilson, je jouais un spectacle qui s'appelait Le Champion de la Faim, tiré d'une nouvelle de Kafka, mis en scène par Daniel Benoît. J'étais une panthère dans une cage au festival de Shiraz, qui à l'époque était un festival très... très innovant, très créatif. Il y a des artistes comme Bob Wilson, donc on allait écouter Stockhausen un petit peu plus loin. Enfin, c'était vraiment très 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 pointu, inversement proportionnel à des choses très très dures qui se passaient politiquement aussi à l'époque.
Mais c'est vrai qu'il y avait en Iran.
Et alors je jouais ça, accompagné. Il y avait François Berléand dans cette troupe, Brigitte Catillon. Et il y avait Bob Wilson.
Ça devait être dur avec François Berléand quand même, parce que.
Pourquoi?
Ouais, parce que c'est pas voilà, il est pas gentil. Non,
c'est un running gag.
Il boit beaucoup.
Surtout sur scène.
Personne ne l'aime ici autour de cette table. Alors c'est pour ça qu'on passe notre temps à dire du mal.
Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne dure pas.
Mais non, je vais pas participer à ça.
Non, pas participer, Isabelle, parce que quand je le fais pas, après on se moque de moi, on me dit c'est de l'humour. Donc il faut dire quelque chose de.
Non mais vous avez raison. Il est déjà tombé bien bas. C'est pas la peine.
On va marcher dessus.
Et alors donc.
J'attends, elle est gênée.
Pas du tout. Non. Je pense qu'il peut supporter ça, François.
Il
est assez grand. Et bon, alors il y avait Bob Wilson qui jouait un spectacle qui s'appelait K Mountain, qui durait 7 jours et 7 nuits. Et alors on allait le voir la nuit, après avoir joué, on se déplaçait et on allait voir ce spectacle. Et puis j'ai vu Bob Wilson de loin, et si j'avais pensé un jour que ça serait une des rencontres majeur de ma vie d'actrice, vraiment, c'est quelqu'un qui... Je vais refaire probablement un spectacle avec lui.
Un génie.
Avec Bob Wilson.
Super.
C'est un génie, voilà. C'est quelqu'un qui a transformé le regard, tous ceux qui ont vu Le Regard du Sourd pour la première fois, à commencer par Louis Aragon, je crois, qui malheureusement, ça n'a pas été mon cas, j'ai pas vu Le Regard du Sourd, mais ça a véritablement transformé le regard du spectateur de théâtre. Le travail sur le temps, sur l'écoulement du temps, sur la lumière, c'est quelqu'un qui a...
Et pardon si je peux me permettre de revenir sur ce mini scoop que vous nous glissez à l'oreille. Retravailler avec Bob Wilson, c'est une envie ou c'est une décision et c'est acté?
L'envie, elle est permanente, et la décision, elle va se prendre très très rapidement. Ça dépend plus autant de lui que de moi. Mais plutôt de lui. Je pense encore que c'est quand même les metteurs en scène qui décident de travailler avec les acteurs et non le contraire. C'est comme ça que je vois les choses.
C'est une affaire quand même de désir entre les deux.
Oui, mais le maître d'œuvre, c'est le metteur en scène. C'est quand même celui qui vous. Alors après, je sais pas, on peut appeler ça comme on veut. C'est celui qui. C'est d'abord le désir du metteur en scène vers l'acteur que le contraire.
Et ça va durer 7 jours et 7 nuits? Ça va se passer où?
Je sais pas encore. J'espère un peu plus longtemps que c'est. Enfin, le spectacle, non, ça durera pas 7 jours et 7 nuits.
Mais c'est là, c'est en 2017, ça arrive.
Oh non, ça sera pas. Non. L'année prochaine plutôt. C'est-à-dire
2018.
On est à la fin de 2016. Ouais. 2018 plutôt.
En 2018.
Oui, je pense.
D'accord.
Enfin, je dis ça, c'est peut-être 2019 ou.
Ah, c'est long, reviens. Non, 2019, ça fait long, Isabelle Huppert, là. Faut faire quelque chose.
Oui, mais là, j'ai fait beaucoup de théâtre, là, quand même. Là, je termine la tournée de Phèdre.
Oui, il y a la tournée de Phèdre, absolument.
Je la joue à Liège demain soir.
Ouais.
Et c'est après, je vais la jouer à Athènes.
Et c'est très éprouvant comme spectacle.
Mais c'est vrai que les tournées, c'est compliqué, parce que par exemple, je l'avais joué à Londres au mois de juin, au Barbican. Après, j'ai arrêté 2 mois et demi. Après, je l'ai repris à New York, au BAM. Après, j'ai arrêté. Alors, à chaque fois, il faut réapprendre. Ouais. C'est ça qui est très fatigant.
Et puis, vous avez un texte colossal.
Un grand texte.
Ah, oui.
Parce qu'il y a 3 pièces en une.
Ouais.
Vous avez tourné aussi avec Michael Cimino, en écoutant peut-être dans votre bande originale à ce moment-là, Véronique Sanson.
Quand j'aurais mis 20 ans à voir que tout était mirage, je tire ma révérence.
Ça pourrait aller avec Souvenir, ça aussi. Hein.
Ah oui.
Ma révérence.
C'était La Porte du Paradis, Michael Cimino. Il sortait du Voyage au bout de l'enfer. Et pourtant, La Porte du Paradis, ça a été aussi un enfer.
Ouais.
Bien que vous en gardez un bon souvenir.
Voilà, exactement. Il ne savait pas, quand on tournait le film, et moi non plus, qu'il allait à nouveau traverser l'enfer. Un enfer dont il sait, au fond, jamais complètement remis. Michael Cimino est mort à la fin du mois de juin. Voilà, c'est quelque chose au fond qu'il aurait supporté toute sa vie, mais en même temps le film est constitutif à la fois de sa grandeur et de son échec. Et
il vous avait repéré dans Violette Nozière, c'est ça?
C'est ça, voilà.
Et dans un cinéma d'auteur à New York.
C'est ça, le Paris, qui est juste à côté de l'hôtel Plaza. C'est un cinéma qui existe encore, où souvent passent des films français ou étrangers. Et il a toujours dit voilà, qu'il était descendu par hasard et qu'il était rentré dans ce cinéma et que là, il avait décidé que ça, c'est moi qui ferais ce film, qui a été une aventure extraordinaire. Alors, rien qu'en écoutant la musique du film, là, il y a une émotion très grande qui m'envahit à chaque fois que je réécoute la musique du
film. D'où l'importance des cinémas de quartier aussi, des cinémas d'auteur et de leur programmation, parce que ça permet aussi de découvrir ou de redécouvrir beaucoup de films.
Et heureusement, on a beaucoup de ces cinémas.
Et il y en a à Paris aussi.
À Paris, oui.
Quand il pense, début juillet, Cimino, Abbas Kiarostami, c'est pareil. 2016, pour les réalisateurs, c'est quand même un drame.
Comme pour les musiciens.
Ouais, c'est ça, mais on parle beaucoup de la musique et on médiatise beaucoup les musiciens, mais c'est que côté cinéaste.
Allez, encore 10 jours et on passe à 2017. Plein de bonnes nouvelles, j'espère. En 2001,
justement.
Si, 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 j'ai confiance dans la nature humaine. Vous parlez de la pianiste tout à l'heure et vous chantiez également.
Contre l'amour, voulez-vous vous défendre? Empêchez-vous de voir et d'entendre. Gens dont le cœur s'explique avec esprit. Il en est peu de ce genre maudit, mais trop encore pour mettre un cœur en cendre. Il en est peu de ce genre maudit.
Contre l'amour avec Jean-Louis Murat, c'est un disque en hommage à Madame Déhoulière. Vous avez dit que cet album avait été mise en scène, dirigée comme un film ou comme un court-métrage par Jean-Louis Murat qui vous a dirigé.
Oui, c'est Jean-Louis qui avait redécouvert cette féministe, poétesse, je ne sais plus, je veux dire une bêtise parce que je ne sais plus du quel siècle elle était, enfin d'un siècle révolu, et il a décidé voilà, de la mettre en musique et de faire partager son univers. Il m'a demandé de participer à cet album qui est parfois chanté, parfois plus parler, chanter. On dit du Sprechgesang par exemple, mais enfin là c'est très modeste hein, comme Sprechgesang. Je raconte la poésie de Madame Déshoulières.
On va rentrer professionnellement dans le cercle familial. Je respecte trop la famille pour vous poser quelques questions que ce soit sur votre vie privée. Sauf que là, vous avez partagé l'affiche avec votre fille. Ça a dû être un moment particulier pendant lequel vous écoutiez Camille.
Je vais tout lui confisquer, se déchater son sifflet. Je vais lui donner la fessée.
Très organique ce morceau. C'est vraiment le corps est un instrument de musique aussi.
Ouais.
Copacabana, le film de Marc Fitoussi, jouer, partager des scènes avec Lolita, Chama, votre fille, ça doit être un moment à la fois magique pour une maman et particulier pour une actrice.
C'était particulier pour toutes les deux. Au début, on a eu du mal. C'était très curieux d'ailleurs ce qu'on a vécu, les sensations qui nous ont traversées à ce moment-là. Comme si la fiction était au fond au regard d'une relation qui est la nôtre, privée, qui est tellement forte et extraordinaire et magique. Alors tout d'un coup, la fiction nous paraissait, dérisoire. On a eu du mal à entrer dans le travail. Ça a pris on riait en fait. On n'y croyait pas nous-mêmes. On se disait mais qu'est-ce qu'on fait là, l'une en face de l'autre. Bon après ça s'est arrangé, surtout sous la direction de Marc Fitoussi, qui est un metteur en scène que j'aime énormément, avec qui j'ai retourné après la Ritournelle, qui fait des comédies formidables, très très fines. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup.
Et toutes ces musiques alors que nous écoutons et que vous aimez, la présence de la musique, à part ce piano désaccordé à la maison, vous avez en fonction des rôles. Est-ce que vous écoutez des musiques particulières en fonction des rôles que vous allez jouer pour vous mettre dans une bulle musicale, dans un contexte?
A priori, j'aime pas tellement écouter de la musique. Non, j'aime assez le silence aussi. Moi, c'est-à-dire que je suis pas une obsessionnelle du fond sonore permanent. Au contraire, enfin, j'aime trop la musique d'ailleurs pour lui donner cette fonction un petit peu décorative et bouche-trou. Voilà. Alors, il y a une époque, je me souviens quand je jouais Le Mois à la campagne de Tourguenieff, une pièce que j'ai jouée il y a déjà assez longtemps. J'écoutais énormément les impromptus de Schubert, par exemple, avant d'entrer en scène. Mais après, j'ai arrêté. Ça ne me viendrait plus à l'idée d'écouter de la musique avant de jouer. Ça serait, je sais pas, ça quelque chose qui se court. court-circuiterait, comme ce que je viens de dire d'ailleurs.
La musique est importante puisque vous jouez le rôle d'une chanteuse dans Souvenir, une chanteuse qui revient à la une dans une espèce de télécrochet. Ça pourrait être, je sais pas, la Nouvelle Star, The Voice, ou je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Mais enfin, il y a des juges et un public qui sont là et vous êtes qualifié avec une chanson qui devrait presque sortir en single.
Joli garçon, je dis oui, bras de béton, je dis oui, cœur de bonbon, je dis oui, seule vie l'amour ou vie envie.
On est un peu copains à Cabana là.
Ouais. Je dis oui.
Et c'est Pink Martini qui signe cette vidéo.
La musique, ouais.
Ouais, c'est important de le rappeler. Nous avons demandé à Nathalie Enich, merci Nathalie de venir à ce micro. Nous avons demandé de venir, vous êtes Enich, pardon si je prononce correctement votre nom, pardon pour cette faute, vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS. Comme justement le film avec Isabelle Huppert parle de cette notoriété, de cette exposition faite par une chanteuse, Laura en l'occurrence, qui passe au concours de l'Eurovision devant des millions de personnes. Puis après qui est totalement oubliée, soit pour des raisons personnelles, parce que son couple, elle était avec son manager, son couple a explosé en plein vol, donc il lui manque son binôme, et elle se retrouve avec une vie quotidienne, et dans l'anonymat le plus total, à tel point qu'elle en est transparente, que tout le monde passe à côté en l'ignorant totalement. Votre livre s'appelle « De la visibilité », de cette importance donc de l'image. Je voudrais juste déjà savoir...
La question arrive.
Oui, non, parce que Je resitue. Je voulais juste connaître votre définition de la célébrité. Ça veut dire quoi, être célèbre, aujourd'hui, en 2016?
C'est justement la visibilité. C'est-à-dire, c'est pas seulement le fait que son nom soit connu, mais son visage. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec l'invention de la photo au 19e siècle, puis du cinéma, puis de la télévision, puis d'Internet. Et c'est ça qui est absolument fondamental. C'est la possibilité de mettre un visage sur un nom, et pas seulement un nom sur un visage. Et ça a complètement modifié le rapport à la célébrité.
À tel point qu'on devient célèbre même sans avoir rien fait. On peut être célèbre sans chanter, sans jouer la comédie, sans écrire ou sans peindre.
Ça a commencé à se produire avec les émissions de télé-réalité. Mm-hmm. C'est-à-dire à la fin des années 90, on a vu arriver des personnes qui étaient célèbres simplement, qui devenaient rapidement célèbres simplement pour être présentes devant les caméras. Le problème, c'est que dans ce cas-là, c'est une visibilité extrêmement éphémère. Elle retombe très très vite dans l'anonymat.
Pas toutes. Enfin, les Paris Hilton, les Kardashian, qui font rien d'autre que d'exister en photo, en se prenant elles-mêmes en photo d'ailleurs. C'est-à-dire
parce qu'elles continuent d'exister. Il y en a en France
qui arrêtent d'exister.
Il y a eu des fins funestes.
Si on repense au Love Story 1, ouais. Par exemple, on peut en citer quelques-uns, mais les autres ont totalement disparu.
C'est-à-dire que celle qui reste, c'est celle qui a été la première, Luana, qui donc reste parce qu'elle a été la première.
Et qui souffre de
voilà, ça. Mais disons que ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000, la presse People a monté en puissance d'une façon totalement inédite et a accompagné donc diffusion de ces célébrités éphémères, de sorte qu'elles sont devenues un peu moins éphémères grâce à la presse People. Mais la presse People elle-même est éphémère. Et donc il y a toute une hiérarchie que j'essaye d'expliquer dans mon livre qui fait que selon les raisons pour lesquelles on est célèbre ou visible, cette visibilité va être plus ou moins respectée et considérée comme méritée et va être plus ou moins éphémère. Ou durable. Et ce qui est intéressant, ce qu'on voit bien dans le film, c'est la difficulté, non pas à devenir célèbre, qui est un vieux poncif de scénario, mais la difficulté à le rester. Parce que ce qu'on ne voit pas, par définition, parce qu'ils deviennent invisibles, c'est la quantité d'acteurs, de chanteurs, de créateurs aussi, qui ont eu, comme on dit, leur heure de gloire, mais qui, pour toutes sortes de raisons, ne parviennent pas à se maintenir dans l'univers de cette célébrité. D'ailleurs, en voyant le film, je me disais que ça aurait été intéressant d'imaginer que Isabelle Huppert n'ait tourné que La Dentelière, et que quelqu'un, 40 ans après, la découvre en serveuse, par exemple, dans un restaurant. Ça aurait été exactement ce cas-là. Hein, ça aurait été possible pour toutes sortes de raisons qu'on peut imaginer. On arrête après un premier film et puis voilà. Alors, par contre, ce qui est beaucoup plus rare, et c'est le sujet du film, c'est l'idée que l'on puisse revenir, de redevenir célèbre après avoir été anonyme.
Et pourtant, il y a de nombreuses tournées, on en a parlé ici, que ce soit H-Tendre et tête de la tournée H-Tendre avec toutes ces stars qui rechantent, les années 80 qui reviennent aussi à la mode avec des fêtes, des concerts, des grands concerts.
Oui, mais ces gens-là n'ont jamais été totalement oubliés, disons, c'est une question de génération.
Ils qui restent, ce qui n'est pas le cas du film, qui restent sur leur succès des années 60, des années 80, en rechantant, c'est simplement, c'est de la nostalgie qui fait qu'on reparle à nouveau d'eux et on les voit à nouveau. Mais là, dans le film, elle revient par une nouvelle chanson, par un nouveau concours où elle se met en danger. Le travail n'est pas le même.
Le travail n'est pas le même, mais j'ai aussi pensé, en voyant le film, un très joli film de Laurent Tuel qui s'appelait Jean-Philippe, qui était joué par Fabrice Luchini et Johnny Hallyday dans son propre rôle, et où on voyait le fan de Johnny après un accident passant dans un monde parallèle où Johnny Hallyday ne serait jamais devenu Johnny Hallyday, c'est-à-dire aurait raté le premier concert qu'il devait donner et serait passé dans l'obscurité, serait devenu un obscur patron de bowling. Et donc, il rencontre ce Johnny Hallyday qui n'est jamais devenu Johnny Hallyday. Voilà, il y a tout un jeu sur la célébrité qui disparaît, qui aurait pu devenir, mais qui n'est pas devenu, qui réapparaît, qui est en fait très fantasmatique, parce que dans la réalité, ça se passe très peu comme ça. Et ce sont plutôt des fantasmes de reviviscence ou des fantasmes d'identification.
Donc, la célébrité, c'est simplement exister dans les médias, être diffusé, avoir des photos. Les réseaux sociaux aident, finalement, même si les médias ne vous diffusent pas, vous vous auto-diffusez sur les réseaux.
Oui, alors avec les réseaux sociaux, on arrive à une nouvelle phase dans la visibilité. Ça n'est plus grâce à des intermédiaires spécialisés que sont les directeurs artistiques, les directeurs de journaux, etc.
Donc il n'y a plus de tri.
Mais il y a une auto-promotion de la visibilité qui fait qu'il y a une symétrie. Tout le monde peut devenir visible, sauf que du même coup, c'est plus un privilège. Et du même coup, ça ne rime pas grand-chose.
Et dans le scénario que vous évoquez avec Johnny, il y a quelque chose finalement qui est très touchant dans le film, en fait, c'est de passer à côté, c'est de ne pas prendre le bon chemin, se dire, voilà, si je ne prends pas cette décision, peut-être que mon itinéraire va aller à droite ou à gauche. Quand on fait des choix d'artiste, au début de votre carrière, est-ce qu'il y avait une forme de pression en se disant, il faut que j'accepte plutôt ça comme rôle pour espérer avoir une forme de longévité, ou c'est, on le fait de façon un peu inconsciente?
J'ai l'impression que l'artiste est quand même angoissé. Parce que le choix, il doit être au contraire complètement, il doit venir de soi-même. Et si on commence à essayer d'anticiper des raisons de succès ou d'échec,
alors... Mais on peut se dire plutôt comédie, plutôt film d'auteur, parce que j'aimerais avoir un chemin comme ça,
ça se passe pas comme ça. D'abord, moi, j'ai jamais fait une différence aussi fondamentale entre la comédie et la... D'abord, il peut y avoir des comédies de films d'auteur. J'aime pas trop faire la différence aussi entre les films d'auteur et les autres, déjà, et ni entre la comédie et le drame, parce que dans le drame, il peut y avoir de la comédie, et vice-versa. Non, ça n'intervient pas du tout, ce genre de calcul ou d'anticipation.
C'est rétrospectif, éventuellement.
Ah oui, après, on peut toujours constater, effectivement, que les choses ont pris telle ou telle place, mais ça préside pas du tout au choix qu'on peut faire de
Mais vous ne regrettez pas une seconde d'être peut-être passé à côté d'une carrière de patineuse professionnelle?
Mais c'est, voilà. Mais ça, je regrette.
Ah, voilà.
C'est ça. Et au fond,
Salaud, tu reprends le coup
d'un coup. Faut dire les choses.
Bah, la lame du patin, voilà, précisément,
la carrière aurait été beaucoup moins longue.
Il l'a remue certainement mieux que moi, de la manière dont je la remets moi-même. Voilà.
Mais c'est vrai qu'on peut faire une longue carrière dans le patinage. Là,
oui,
parce que ce
qu'il faut dire, c'est que selon les activités qui nous mènent à la visibilité, on a des chances plus ou moins grandes de rester.
Les gymnastes sont à la retraite à 20 ans.
Exactement. Et les musiciens peuvent rester très longtemps célèbres parce que la voix se fatigue quand même relativement peu. Pour les acteurs,
on a
Neil
Young qui sort un album, qui a sorti un album à plus de 70 ans, ou les Rolling Stones encore.
Dont la visibilité repose sur la diffusion du visage, et notamment en gros plan, comme c'est le cas des acteurs et des actrices, c'est un vrai problème parce que c'est la question de la continuité.
Le président de la République aussi.
Ça va maintenant.
Leur compétence n'est pas considérée comme étant basée sur leur beauté, normalement.
Pour en revenir à la célébrité, quelle est la part de narcissisme dans la psychologie de quelqu'un qui cherche à être célèbre ou qui l'est? Comment gérer son regard sur sa propre célébrité.
Il faudrait aller voir dans le cerveau des personnes concernées. C'est vrai que c'est toujours difficile d'être face au regard d'autrui lorsque cet autrui est à la fois anonyme et très massif. Il y a des gens qui vivent ça très bien, d'autres qui vivent ça moins bien. C'est des paramètres plutôt individuels. Mais c'est vrai qu'il y a une forme très particulière de peur qui est liée à l'exposition au regard d'autrui, c'est ce qu'on appelle le trac. Et ça, c'est quelque chose que certains comédiens connaissent bien, d'autres pas.
Et alors, vous parlez du capital de la visibilité.
Capital de visibilité. Ouais, c'est exactement comme le capital économique ou le capital culturel, c'est-à-dire c'est l'écart entre le nombre de personnes qui vous reconnaissent et le nombre de personnes que vous reconnaissez. Lorsque cet écart est très grand, eh bien, vous avez un très grand capital de visibilité. C'est très simple, ça se mesure. Si vous êtes reconnu par des millions de personnes,
c'est qu'on a un problème de mémoire aussi.
Si vous êtes reconnu par des millions de personnes que vous, par définition, vous ne pouvez pas reconnaître parce que vous ne les avez jamais vues, eh bien, vous avez un énorme capital de visibilité.
Nagui est psychorigide, il connaît tous les téléspectateurs. Il les connaît tous.
Et comme toutes les formes de capital, il engendre de l'argent, des privilèges, de l'homogamie, c'est-à-dire les gens se marient entre eux.
Dans les mêmes cercles, voilà, même milieu, même cercle,
ils vivent dans les mêmes cercles. Il y a toutes sortes de caractéristiques.
C'est pour pouvoir partir en vacances en même temps, c'est comme les profs, ça, c'est tout.
Laisse les profs tranquilles.
De la visibilité, c'est votre livre. Merci d'être venu, en tout cas, merci mille fois d'être venu, Nathalie.
À 21 décembre.
C'est chez Gallimard, collection Bibliothèque des sciences humaines, excellence et singularité en régime médiatique. C'est le titre précis, c'est de la visibilité. Voici les cues. Dans la bande originale, cette bande originale où nous recevons Isabelle Huppert à propos de Souvenir. Le film sort aujourd'hui, signé Bavo de Furnes. Et je vais commencer toutes mes phrases, Isabelle Huppert, par Je n'oublierai jamais. Vous les concluez comme vous l'entendez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, simplement votre excellente mémoire. Je n'oublierai jamais que dans ma maison d'enfance, il y avait...
Il y avait... un très grand et beau jardin. Avec des statues.
Genre en pierre ?
Ouais.
Je n'oublierai jamais mon professeur de...
De français au lycée, Madame Canguilhem, qui était la femme d'un grand philosophe, Monsieur Canguilhem.
Je n'oublierai jamais la phrase que me disait mon papa ou ma maman.
« Ma mère nous disait souvent, tu n'as pas l'esprit Callot. Alors, parce que les sœurs Callot, c'était nos arrière-grand-mères, c'était des couturières célèbres du début du siècle. Et ça voulait dire, tu n'as pas d'humour. Alors, je pense qu'elles devaient avoir beaucoup d'humour.
Je n'oublierai jamais mon petit péché mignon.
D'il y a longtemps.
Oui, peut-être maintenant. Un péché mignon, ça peut rester toute une vie.
Mon petit péché mignon.
Vous craquez quoi, sur les chocolats, sur les...
Ah, sur les chocolats, oui, sûrement. Oui, allons. Sur
le,
partons pour les chocolats.
Les massages du pied.
Les chocolats.
Il y a autre chose que le chocolat.
Les chocolats.
Le crack. Non. Non, c'est une suggestion. Hein.
Oui, ça c'était plus tard. Je voulais pas en parler justement.
Isabelle Huppert est notre invitée jusqu'à midi et demi, à moins que les sup ne débarquent évidemment, mais normalement elle est avec nous jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leila Kadrouboudadi, Guillermo Guiz, Daniel Morin, Albert Algou, et notre invité Isabelle Huppert. Merci. Aujourd'hui à la radio, mais surtout aujourd'hui au cinéma, dans Souvenir de Bavo de Furnes, ce film qui raconte l'histoire d'une ancienne vedette, une star de la chanson, star d'un titre en tout cas, ou d'un événement qui était le concours de l'Eurovision. Malheureusement pour elle, elle a perdu, elle a été deuxième. Abba est passé devant, mais depuis qu'Abba est passé, forcément on a oublié tout le monde, quelles que soient les paillettes, quelles que soient les chansons. Et cette femme qui est dans l'anonymat le plus total, travaillant à la chaîne dans une usine de pâté, ce qui n'arrange pas l'image, j'avoue, parce que voilà, l'usine de pâté, la charlotte sur la tête, la blouse blanche.
Il fallait un contraste avec Isabelle Huppert.
C'est ça.
Tu mets le pâté, tu mets Isabelle Huppert à côté.
Avec ce bleu.
Tu remarques Isabelle Huppert, c'est ça que tu veux dire. Oui. Sympa.
Franchement, si toutes les usines étaient comme ça.
Ouais, non, c'est vrai. Elle est esthétique, mais ça reste du pâté, si je peux me permettre. Hein.
Oui,
il y a des bons pâtés.
Oui. C'est pas du foie gras, oui, c'est du pâté.
Non, mais j'aime ni l'un ni l'autre, ça tombe bien. Tant qu'elle est l'animal mort, ça passe pas.
Continuons cette conversation sur la charcuterie.
Ça a déjà commencé sur... Ah non, c'était ce matin, pardon.
Souvenir, donc, avec ce film, et surtout avec cet amour, parce qu'il y a Kevin Azaïs, le comédien, qui dans le personnage de Jean vous reconnaît, et à la fois craque sur l'être humain, sur celle qui travaille à l'usine, mais aussi sur l'image, l'icône qu'il avait gardée en mémoire. Les deux d'ailleurs vont un tout petit peu dans son esprit se chevaucher, parce que il va tout faire pour qu'elle revienne, elle va revenir, et de là va naître aussi évidemment une forme d'amour qui va se concrétiser, parce que il la sauve un tout petit peu aussi. Elle retrouve un peu le sourire, la joie, le maquillage, les belles robes.
Ah oui,
elle revit.
Elle revit. Alors c'est pas qu'elle vivait plus du tout. Peut-être elle était aussi. Elle tirait une forme de satisfaction de ce retrait. Plus volontaire que subi probablement, mais oui, il est certain qu'il l'a fait revivre différemment, et surtout en l'aimant aussi. Et alors, ce qui est amusant aussi, c'est qu'il traduit aussi le désir du père, hein, parce que c'est le père qui c'est son père à lui, enfin, ça, sans dévoiler non plus le film, mais c'est le premier fan de la chanteuse, c'est son père à lui, donc il y a une sorte de parallèle comme ça entre le père et le fils vis-à-vis de cette chanteuse pendant tout le film.
Et puis lui-même étant boxeur, lui-même ne pouvant pas forcément réussir la carrière dont il rêve, il va se battre, mais au sens propre du terme aussi, pour revenir. Il en est par moment jaloux, il fait tout pour que sa carrière, votre carrière dans le film rebrille à nouveau. C'est une histoire aussi d'une histoire d'amour, mais aussi par moment d'incompréhension.
Mais le parcours est quand même le film, encore une fois, a l'aspect du conte, la joyeuse du conte, l'aspect parfois un peu sucré du conte, mais enfin comme beaucoup de contes aussi, il y a de la noirceur, il y a quelque chose d'un peu plus sinueux, et il y a des obstacles qui tout au long du film vont devoir être franchis, que ce soit encore une fois de sa part à elle pour affronter le succès, une peur aussi, quelque chose de très violent. ans qu'il la traverse au moment de ce possible succès final. Et puis, et puis aussi pour accepter cette histoire d'amour. Donc, c'est ça que je trouve assez beau dans le film. C'est, voilà, c'est l'idée, encore une fois, que les obstacles ne sont pas que de l'extérieur, mais que soi-même, parfois, on se crée ses propres contraintes et ses propres difficultés à affronter les bonnes choses qui peuvent vous arriver aussi.
Ouais. Nous, on est prêts à affronter même les mauvaises choses qui peuvent arriver dans cette émission, notamment Daniel Morin, que voici. C'est un obstacle, c'est notre obstacle quotidien. Vas-y, obstacle. Ah, c'est le feuilleton.
Oui. En France, il existe un endroit où tout est merveilleux. Un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris. Une maison ronde, pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi, une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire.
À France Inter.
Une saga quotidienne avec le dominateur Patrick Cohen, l'instable Augustin Trapenard, Nagui le Vicelard, Laetitia Gaillet, la journaliste recherchée par le FBI, mais aussi Laurence, la directrice qui en 1999 a une liaison amoureuse avec Jean-Marie Bigard, Mathieu, le grand patron le plus beau du monde, et bien sûr, tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire, France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter.
Enfin, en apparence.
Aujourd'hui, en l'honneur de notre invité, toute la grille de France Inter est consacrée aux artistes vivants, mais oubliés. Laurence, la directrice, aux mèches rebelles, fait son petit topo.
Bon, aujourd'hui, on va pas être dépaysé, on va parler des artistes vivants, mais oubliés. Ceux dont vous parlez tous les jours, qui retombent dans l'oubli le lendemain. Sauf qu'aujourd'hui, je veux de l'évocation de vraies vedettes, pas de demi-celles qui sont connues seulement dans leur immeuble. Compris, bande d'imbéciles ? Bon, je vous laisse. Je vais bruncher avec Patrick Sébastien.
Chez Nagui, l'ambiance est surréaliste. Dans un premier temps, il avait invité Hervé Villard, qui avait vu dans cette invitation l'occasion de signer un comeback. Après 3 tentatives, lors desquelles Nagui est obligé de plaquer au sol le chanteur pour l'empêcher justement de chanter, la 4e fut fatale au chanteur au moment où il entama le refrain de Caprice est fini. Un vigile lui tirait une balle dans la jambe. Pour rattraper l'ambiance, Nagui fit appel à François François. Mais mal l'en prit. Quand Nagui demanda à François François un exemple de chanteur vivant mais malheureusement oublié, ça a tourné au vinaigre. Dites-moi, François François, c'est quoi pour vous l'archétype du chanteur vivant mais oublié ?
Pour moi, le meilleur exemple, c'est bien sûr, c'est Jérôme !
Mais enfin, il est mort, c'est Jérôme !
Mais non, espèce de con ! C'est Jérôme est immortel ! Écoute-moi ça !
Et tu danses avec lui !
Pour toujours, c'est Jérôme est vivant dans nos cœurs !
Oui, d'accord, mais il est mort !
Ta gueule !
De son côté, le très cultivé Augustin Trapenard, génie aux commandes de l'émission Boomerang, l'émission que tu crois qu'elle a une fin, mais toujours elle revient. Augustin a invité Jean-Luc Lahaye, un Jean-Luc Lahaye très sympa, très drôle, mais qui instinctivement se mettait nu et sautait sur la vitre du studio quand il voyait passer une très très jeune stagiaire dans le couloir. Au 18e saut dans la vitre, le chanteur vivant mais oublié n'avait plus de dents et l'interview s'est arrêtée.
Oh, c'est ballot.
Plus pragmatique, Patrick Cohen, le roi du matin, l'empereur du lever de soleil, le Kim Jong-un de l'aurore, reçoit un invité politique oublié. L'émission se passe à merveille, Patrick est détendu, l'invité est drôle et généreux. Oui, généreux car avant de partir et pour remercier Patrick, il lui donne quelques conseils simples mais efficaces pour faire des économies. Une fois que Patrick eut terminé de noter tout ce que son invité venait de lui dire, il remercia chaleureusement Jérôme Cahuzac. Un peu plus loin dans l'émission, pour l'émission, dans un studio, André Manoukian respecte la règle du thème imposé. Lui aussi, il reçoit Dev, chanteur presque vivant, mais malheureusement presque oublié lui aussi. L'interview tourne court malheureusement. André fait son speak d'intro en disant... Aujourd'hui, je reçois l'homme qui a chanté la douleur de l'amour, la douleur dans les retrouvailles comme dans la séparation, un des rares chanteurs à avoir osé le cri en fin de prénom comme une déchirure dans l'obscurité de l'être tourmenté par la solitude, le fameux cri du Vanina ah 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 oh 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 ah ah ah. Bonjour Dev. Et là, au lieu de répondre bonjour André, Dev éclate de rire et lui dit « Mais il n'y a pas de message de souffrance dans Vanina, c'est juste que je ne savais pas quoi dire et qu'à cette époque, on pouvait dire de la merde. » Vexé, André Manoukian claque la porte du studio et de rage fait l'amour à une technicienne qui s'avérera être un technicien cheveux longs. Mon Dieu, quelle radio. Une fois encore, c'est dingue quand même. Une fois encore, le thème pourtant délicat était respecté par tous. Bref, aujourd'hui encore à Radio France, un exploit a été accompli. Ça paraît fou vu de l'extérieur, mais cette journée de prouesse éditoriale, figurez-vous que c'est juste une journée ordinaire.
À France Inter. Merci Daniel Morin.
France Inter, la vie originale, avec Nagui.
avec Nagui.
Isabelle Huppert à l'affiche de Souvenir qui est sortie aujourd'hui. Isabelle qui ce soir et demain jouera Phèdre au pluriel, donc ce portrait universel de la femme à travers les époques. Concernant le cinéma, Elle de Paul Verhoeven continue sa carrière, puisque au-delà des prix que vous pouvez recevoir entièrement mérités, il y a toute le suspense autour des Oscars. J'imagine que ça vous trotte un tout petit peu dans la tête. On saura le fin janvier, c'est ça, les nominations aux Oscars?
Oui, ça trotte plus dans la tête des commentateurs que de moi. Enfin, le film représente la France. Pour l'Oscar du meilleur film étranger, voilà.
Oui. Non mais d'avoir reçu le prix de la meilleure actrice au Gotham Awards, ça, on se dit toujours que c'est un peu l'antichambre des Oscars. C'est ça doit allumer une petite.
Moi, jusqu'à ce que je reçoive ce prix, je savais pas ce que c'était, le Gotham Award. voilà, c'est un prix très américain, très new-yorkais, qui récompense le cinéma indépendant, une notion. Plus française peut-être qu'américaine, encore qu'il y a plein de la preuve.
De plus en plus,
ouais, c'est ça. De plus en plus de films qui se font hors studio aux États-Unis. Et jusqu'à ce que je le reçoive, j'ignorais complètement l'existence de ce prix, mais qui est un prix tout à fait important, oui, pour les Américains.
Voici le brouillon de culture de Leïla Kadrboudadi pour Isabelle Huppert.
Oui, Isabelle, je vous sors de la promo un petit bol d'air, histoire d'apprendre à mieux vous connaître, à mieux connaître vos goûts. Et on commence par un premier son pour vous.
Les actrices, elles sont à la fois des princesses et des soldats. Donc tantôt elles sont princesses, elles aiment bien se faire endormies, et elles aiment se faire réveiller, désirer, elles aiment être élues. Et puis elles sont soldats aussi, elles diront.
Voilà, ce sont vos premiers mots dans un très beau portrait qui vous est consacré dans la collection Empreinte sur France 5.
Avec Castadiva en fond sonore.
En fond sonore, pour illustrer ces propos, les actrices sont à la fois des princesses, des soldats, des élus, des battantes. Est-ce que ça vous résume, vous ?
Oh, je crois que ça résume beaucoup d'actrices, oui, des princesses, parce que oui, on a le sentiment, à juste titre, hein, qu'on vit aussi dans un univers privilégié. Ça, quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on le fait avec des gens qu'on aime, c'est évidemment, on est dans des conditions très très privilégiées et très agréables.
Faut se le rappeler souvent, ça.
Mais moi, j'ai pas besoin de me le rappeler parce que c'est naturel tous les jours. Je me dis que j'ai énormément de chance, oui, de faire ce que je fais, de la manière dont je le fais. C'est une chance extraordinaire et que je dois pas qu'à moi-même, mm-hmm. que je dois aussi, aux gens que je rencontre. Soldats, oui, parce que il y a toujours des batailles à livrer, comme dans toute vie, pour arriver au meilleur. L'exigence, il faut se battre pour l'obtenir.
Pour se battre contre soi, se battre contre les autres aussi, j'imagine. C'est un double duel.
Oui, enfin contre les autres, oui, faut lutter pour faire des choses, oui, les bonnes choses.
Alors
mais
on poursuit
pas
avec...
que dans mon domaine, hein, dans tous les domaines.
Dans tous les domaines, ouais. Absolument. Ouais. Mais c'est quand même bon de le rappeler. Alors on va poursuivre avec un autre son. Ça va être encore vous. Je sais que vous avez un peu, vous êtes crispé un peu quand vous vous êtes entendu là pour ce premier son.
Oui.
Mais vous inquiétez pas. C'est encore vous. Et après on discute.
Ça sera pire.
It's a very American award. It's very New Yorker. And you are French, and you'll never get it. So I'm sorry. I feel so American tonight, and I feel good. I really feel good.
Wow, ben c'était fin novembre lors des Gotham Awards qu'on vient d'évoquer de la meilleure actrice pour votre performance donc dans Elle de Paul Verhoeven. Tous les médias français ont été scotchés, étonnés de vous voir aussi touchés, émus, comme si en France on ne connaît pas Isabelle Huppert, douée de sentiments.
Oh, de sentiments.
De sentiments, d'émotions. En tout cas, et tous les commentaires disant que, à chaque fois, on vous voit plutôt comme une comédienne dans la retenue, dans une forme de réserve naturelle, une élégance qui peut même refroidir.
Et... Oui, mais je crois qu'il y a une confusion très grande déjà entre une actrice et ses rôles.
Ouais.
Voilà, d'une manière très hâtive, on est toujours un peu otage et victime de ça, mais sans que ça soit particulièrement une souffrance ni une douleur, mais c'est comme ça, c'est quelque chose de, contre lequel on ne peut absolument pas lutter. Alors là, il y a des gens qui retiennent certains rôles et qui vous identifient à une certaine nature de rôle. Et pour revenir à ce moment, c'est d'abord, pour tout vous dire, j'ai reçu très très peu de prix dans ma vie par surprise, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que j'ai reçu beaucoup de prix d'interprétation, mais comme chacun sait, les prix d'interprétation, c'est jamais totalement une surprise, on sait à l'avance ce qu'on va recevoir, et j'ai très très peu reçu de prix de cette manière-là, voilà, déjà, et celui-là, et c'est je m'attendais absolument pas à l'avoir, parce que c'est encore une fois, c'est un prix extrêmement américain, et on m'avait bien dit que voilà, c'était vraiment bien et sympathique que j'y aille, mais qui avait absolument aucune chance pour que je l'aie. Donc ça m'a littéralement cueilli. Et puis, peut-être ce qui n'est pas palpable ici, dans l'extrait que vous avez présenté, c'est qu'il y a eu une réaction, je dois dire, très très chaleureuse de la salle, qui a contribué à mon émotion et à ma surprise.
On l'entendait,
si. Ouais, ouais, voilà. Si on voit l'extrait en entier, en effet, on voit l'affection.
Ça relevait de la standing ovation.
Oui, ouais, on voit l'affection qui vous est portée, le regard très très touchant. La même chose en France, par exemple, pour les Césars, vous vous autoriseriez à vous lâcher.
À parler en anglais, tu veux dire, aux Césars
aussi.
Écoutez, si l'occasion se présente, pourquoi pas. C'est tout ce que je peux vous dire.
Eh ben, on vous le souhaite. On poursuit avec un dernier son.
Nul n'est prophète en son pays.
On poursuit avec un dernier son, Isabelle. C'est Jean-Louis Murat qui chante Henri Cartier-Bresson. On a évoqué Jean-Louis Murat tout à l'heure. C'est l'occasion pour moi de vous interroger sur votre rapport à la photographie. En 2005, il y a eu une exposition La femme au portrait qui a révélé un peu votre passion pour la photo, qui était à New York, en Europe. 75 photographes, Cartier-Bresson, Doisneau, Helmut Newton. J'ai même lu que vous adoriez poser. C'est quoi votre rapport à la photo? Qu'est-ce qui vous plaît dans la photo à ce point?
Oui, j'aime bien faire des photos. Dans l'exposition que vous décrivez, il y avait des photos très 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 variées. Ouais. Ça reprenait énormément de photos que j'ai faites tout au long de ma vie d'actrice. Et c'est vrai, beaucoup de photos aussi avec des photographes comme dit humanistes, par exemple, comme Cartier-Bresson, Willy Ronis, Jacques-Henri Lartigue aussi. Et ça représente un temps très court, hein, la photo par rapport au temps de ta fille, mais c'est aussi voilà partager l'univers de quelqu'un. Et puis cette exposition, elle était intéressante surtout pour les photographes autant que pour moi, parce qu'elle à travers un seul modèle, qui était moi en l'occurrence, ça faisait émerger la personnalité et la singularité de chaque photographe. Voilà, donc c'est en ça que j'ai pris plaisir à la composer.
Et c'est encore un exercice de composition, justement, et de travail d'actrice.
Oui, mais selon qu'on fait une photo de mode, selon le support pour lequel on le fait, il y a des contextes extrêmement variés. À la fois, on joue et on joue soi-même aussi. Mais ça, c'est le paradoxe
et
du comédien.
Et vous prenez des photos?
Absolument pas. Ouais. Enfin, je les prends comme tout le monde avec mon iPhone, mais elles sont tout le temps floues. Mais la plupart du temps, mais je crois que c'est comme tout le monde qui marche pas bien. Voilà. J'ai un vieil iPhone, je suis pas très moderne.
Mais je me permets de vous faire un cadeau.
C'est l'iPhone 7, voilà.
C'est
vrai que j'ai que le 5.
C'est vrai. Bon, alors on va y réfléchir pour la prochaine fois. Il va falloir revenir, Isabelle Huppert. Il y a une exposition en ce moment à la BNF, La France d'Avdon, Vieux Monde, New Look, donc BNF édition. Là, c'est le catalogue qui regroupe toutes les photos avec les entretiens d'Avdon.
C'est formidable. Et c'est intéressant. J'avais eu l'occasion de faire deux séances de photos.
Et c'est intéressant de voir comment, à travers ces textes, ces entretiens, il raconte le Paris. C'est un Américain à Paris, c'est l'amour d'Avdon pour la France. C'est sa capacité à avoir saisi le New Look de Dior dans les premières années, à entretenir une correspondance avec beaucoup d'artistes, et on retrace comme ça un itinéraire, une époque,
une époque,
la photographie, avec des textes assez très touchants, très touchants. Le parallèle avec Proust, par exemple, comment il explique qu'en lisant Proust, il a appris à vivre des événements avant de les avoir lui-même expérimentés. C'est très très beau.
Voici Cassius et Cat Power dans la bande originale. When you go away, won't be following, though I know Cassius et Cat Power dans la bande originale. Notre invitée est Isabelle Huppert. Elle est à l'affiche aujourd'hui de Souvenir, le film, pratiquement le premier film de Bavo de Furne, mais un film fort en émotion et l'interprétation qui est, j'ai envie de dire, inqualifiable. Voilà, comme ça, elle est inqualifiable.
C'est cette inqualifiable, madame.
Inqualifiable. Ça n'a pas de nom. Isabelle Huppert, des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh, désolé déjà pour vous, Nagui. Oui, Nagui a découvert qu'on pouvait diriger les gens sans leur dire « Fais-ci, fais-ça, place ta voix, enlève-moi cette robe !» Et sans les violenter non plus. Et oui, Nagui, ça existe. Désolé également pour nos auditeurs amateurs de pâté qui ont été frustrés par la bien trop courte durée de notre débat sur la charcuterie industrielle. Promis, on va se reprendre très très vite. Et désolé enfin pour Guillermo. Voilà, pendant le reste de l'émission, on a eu des retours des auditeurs ainsi que de la direction. Et je peux te l'annoncer maintenant. Tu ferais mieux de repenser à ouvrir cette boîte de nuit.
Demain, c'est Raphaël Mesrahi qui sera notre invité pour parler de ces interviews, de ces fausses interviews. Ça a été un bonheur de vous avoir, Isabelle Huppert. Merci mille fois.
Et réciproquement.
Et j'espère à bientôt passer de joyeuses fêtes. Peut-être que le Père Noël sera gentil avec un iPhone 7. Je sais pas. On ne sait jamais ce qui peut se passer à la maison. Bonne journée. Ce sont les carnets de campagne qui vous attendent maintenant sur Inter. Bonne journée avec Philippe Bertrand.
Merci Nagui. Merci la bande et à demain.